Vous écoutez, on lit pour vous.
Un jour, je vais jouer au hockey. Le parcours improbable de Noémie Guimond. Un texte de Guillaume Renaud paru le 3 mars 2025 dans Ici Estrie. Noémie est née après 24 semaines de grossesse, avec un poids de seulement 640 grammes. Le pronostic était alors peu encourageant. Étant grandement prématurée, elle ne marcherait peut-être jamais. Aujourd'hui, à l'âge de 15 ans, la jeune Magogoise en fait une affaire personnelle. Depuis septembre dernier, elle suit des cours de patin grâce au programme Olympiques spéciaux Québec, avec une détermination hors du commun, selon son entraîneuse. D'habitude, mes élèves embarquent avec prudence à leur premier cours. Dans le cas de Noémie, elle avait beaucoup d'assurance. À son début, c'était chute après chute. Elle s'est même blessée à l'orteil, mais elle se relevait tout le temps. « Elle a une attitude de feu », raconte Françoise Doyon, en regardant fièrement sa protégée. Le comble pour Noémie Guimond, ses cours hebdomadaires se donnent sur la glace du Phoenix de Sherbrooke, son équipe préférée. « Mon rêve, c'est de jouer au hockey. Patiner ici, ça me fait tellement sourire. Ça me donne encore plus envie de m'améliorer », lance-t-elle entre deux exercices près du banc de l'équipe locale au Palais des Sports. Une sportive de la première heure. L'intérêt de Noémie pour le sport ne date pas d'hier. Dès son jeune âge, elle joue au baseball et au hockey-ball, sans jamais laisser ses difficultés de coordination l'arrêter. Sa mère, Michèle Guimond, assiste encore fièrement à tous ses cours de patin, cellulaire à la main pour filmer ses progrès fulgurants. Il y a toujours des émotions dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle réussit. On travaille très fort avec Noémie sur toutes les sphères de sa vie pour qu'elle s'améliore, pour qu'elle soit toujours de mieux en mieux. Puis, malgré tous les échecs qu'elle a pu avoir, elle ne lâche jamais. Elle veut toujours plus, plus, plus. Puis, ce n'est jamais assez. Jamais, lance-t-elle, la larme à l'œil. Depuis qu'elle est petite, elle est en classe spécialisée. À l'école, c'est différent. Dans les sports, c'est différent. C'est beaucoup d'adaptation. Ça prend un certain nombre de mois pour s'adapter. Puis le patin, vraiment, elle l'a acquis très rapidement. C'est surprenant, ajoute Michèle Guimond. Une passion qui dépasse l'aréna. Avant d'apprendre à patiner, Noémie a développé son intérêt en regardant des matchs de ses équipes préférées. Beaucoup de matchs. Chez les Guimond, la télévision est carrément monopolisée par la cadette de la maison. Le hockey est à la télé presque 90 % du temps. Nous, on l'écoute pratiquement pas. Pour elle, si ce n'est pas la télé, c'est la tablette, les vidéos sur YouTube, puis les matchs en direct, s'exaspère Michèle, avec un sourire en coin. D'où vient cette passion? Aucune idée, ricane-t-elle. Une chose est certaine. La création et les succès de la Victoire de Montréal dans la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin lui ont donné un second souffle. « Les filles jouent bien mieux que les gars », s'exclame Noémie. Voir les filles jouer, ça donne des rêves aux gens comme moi qui apprennent à patiner et qui veulent jouer au hockey. « C'est vraiment beau », conclut-elle à la fin de son cours, attendant déjà impatiemment le prochain. C'était... « Un jour, je vais jouer au hockey. Le parcours improbable de Noémie Guimond. » Un texte de Guillaume Renaud paru le 3 mars 2025 dans Ici Estrie.
Quand la fierté prend racine en CHSLD, un texte de Daniel Boily et Davide Gentile paru le 3 mars 2025 dans Radio-Canada. 5 ans après les souvenirs douloureux de la pandémie, employés et proches aidants en CHSLD offrent une image plus positive que par le passé. Lorsqu'elle a organisé le déménagement de sa mère en CHSLD à l'automne 2021, Marie-Laurence Paris a dû apprivoiser ce nouveau milieu de vie en pleine pandémie. Au départ, on avait des mesures très strictes sur l'isolement dès qu'il y avait une petite toux, se rappelle-t-elle. Au fil du temps, Il y a eu une écoute et une ouverture pour mettre des choses en place afin de répondre aux besoins du résident et du proche aidant, poursuit-elle. Membre du comité des résidents du CHSLD Paul Gouin, situé dans le nord de Montréal, Mme Paré cite en exemple l'intérêt de sa mère pour le jardinage. « On nous a soutenus pour réaliser ce projet-là avec un bac à l'arrière », dit-elle. « Je vois beaucoup de positifs maintenant. C'est une alliance avec le personnel. » Un point de vue partagé par une autre proche aidante, dont l'état de santé du conjoint nécessitait aussi une prise en charge en CHSLD. « Quand les gens sont gentils, ça se propage entre les membres du personnel et entre les résidents. Ça devient comme la culture », constate Daniel Paquin. Cette ouverture aux familles et aux proches aidants, notamment lors d'une crise sanitaire, figure parmi les recommandations clés tant du protecteur du citoyen que de la coroner, Joanne Kamel, en 2022. Cette dernière avait été mandatée par Québec pour se pencher sur les cas de mortalité dans ces établissements. Plus de 5000 résidents en CHSLD y sont décédés durant la pandémie, souvent sans être accompagnés par leurs proches. Plus de 35 000 personnes sont hébergées dans environ 400 CHSLD publics et privés dans la province chaque jour. Venez nous voir. Lors de notre passage au CHSLD Paul Gouin au mois de février, c'était jour de visite scolaire. Des dizaines d'enfants accompagnaient les 73 résidents pour un bingo. D'autres saluaient des résidents dans leur chambre. « On est ouvert, il faut venir, il faut entrer », lance la technicienne d'intervention en loisirs au CHSLD, Sadia Lamraoui. Tant le personnel que les familles étaient conscients de l'image ternie des CHSLD, en raison notamment de la pandémie. « Nous, on est fiers de nous. Plus les gens viendront, plus ils auront leur propre opinion », estime Mme Lamraoui. Pour la gestionnaire responsable du CHSLD, Sandrine Savanier, on fait partie des centres d'hébergement qui développent le plus ce partenariat, que ce soit avec des écoles primaires, des cégeps, des artistes locaux et même une équipe de basketball. Selon elle, le traumatisme de la pandémie est passé, ellipse, et aura été un gros vecteur de changement. Elle cite notamment la présence d'un gestionnaire dans chaque CHSLD, les ateliers en prévention des infections et la formation accélérée de milliers de préposés aux bénéficiaires pour prêter main-forte. Des progrès. Vincent Audenado est l'un de ceux qui ont fait le saut en 2020 comme préposé Legault. « Dans mon existence, je te dirais que je vis une des plus belles périodes, sinon la plus intéressante », admet-il. Un contraste frappant avec l'isolement et la présence de l'armée au plus fort de la pandémie. Pour la directrice générale du Regroupement provincial des comités des usagers, RPCU, Sylvie Tremblay, la COVID aura été un wake-up call sur le besoin impératif d'arriver avec des barèmes de qualité plus grands dans les CHSLD. Selon elle, des progrès significatifs ont été réalisés, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire sur les plages horaires, ellipses, par exemple le soir, la nuit, la fin de semaine, où c'est encore très difficile d'avoir du personnel. Par ailleurs, il reste encore des CHSLD privés à conventionner selon les conditions du secteur public, souligne-t-elle. J'espère ardemment que les coupes vont arrêter et qu'ils, les gestionnaires de Santé Québec, vont laisser les personnes sur place parce que c'est indispensable, ajoute-t-elle. C'était « Quand la fierté prend racine en CHSLD », un texte de Daniel Boily et David Gentilé, paru le 3 mars 2025 dans Radio-Canada.
Le séquençage génomique, un allié puissant contre les maladies rares. Un texte paru le 5 mars 2025 dans UDM Nouvelles. Le docteur Jacques Elmichaud dirige le volet québécois du projet Care for Rare Expand, financé à hauteur de 21 millions de dollars, qui vise à améliorer le diagnostic des maladies rares grâce au séquençage génomique. Mettre fin à l'incertitude diagnostique pour des milliers de familles touchées par une maladie rare grâce au séquençage des génomes. Telle est l'ambition du projet Care for Rare Expand, avec la mise sur pied d'une base de données fédérée relative à plus de 7000 familles canadiennes. Génome Canada et ses partenaires provinciaux ont annoncé un financement de 21 millions de dollars pour ce projet d'envergure dans le cadre de l'Initiative canadienne en santé de précision. De ce montant, 7,2 millions de dollars sont accordés au volet québécois dirigé par le Dr Jacques L. Michaud, professeur au département de pédiatrie et de neurosciences de l'Université de Montréal, chercheur et directeur du Centre de recherche Azrieli du CHU Sainte-Justine et directeur du Centre québécois de génomique clinique. Mettant à profit les technologies émergentes en génomique et de puissants outils d'analyse de données, Care for Rare Expand promet d'augmenter le rendement diagnostique des approches génomiques en matière de maladies rares, en plus d'être un fort moteur d'innovation. Le projet représente ainsi un jalon important de la mission du Centre de recherche Azrieli du CHU Sainte-Justine, qui est de développer une véritable santé de précision en libérant le plein potentiel de la génomique et des données. Cette initiative permettra de recueillir des données auprès de plus de 7000 familles canadiennes touchées par une maladie rare non diagnostiquée, incluant le séquençage de 15 000 génomes. Les données obtenues reflèteront la diversité des bagages génétiques, puisque le projet concerne des populations de tous les milieux, urbains, ruraux, régions éloignées, les francophones et anglophones, les membres de nations autochtones, ainsi que les nouveaux arrivants. Les données seront intégrées dans les bases de données de Génomique KTRD, Alberta et Ontario, et du Centre québécois de données génomiques, Québec, et interfacées avec la Bibliothèque génomique pancanadienne afin de faciliter leur partage avec les chercheurs et chercheuses dans le respect des normes éthiques et de sécurité les plus rigoureuses. Financé par Génome Canada, Génome Québec, Santé Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, le projet de recherche Care for Rare Expand est mené conjointement par des centres hospitaliers de l'Alberta, Alberta's Children, de l'Ontario, Children's Hospital of Eastern Ontario, Hospital for Sick Kids, et du Québec, CHU Sainte-Justine, CHU de Sherbrooke, Centre universitaire de santé McGill, CHU de Québec, avec l'appui de trois organisations génomiques provinciales, Ontario Genomics, Génome Alberta et Génome Québec, et de l'industrie Illumina et PacBio en Ontario. Au Québec, le projet Care for Rare Expand s'appuie sur le réseau québécois de diagnostic moléculaire, RQDM, qui fédère les laboratoires de diagnostic moléculaire et le Centre québécois de génomique clinique, hébergé au CHU Sainte-Justine de Santé Québec. La participation du RQDM au projet permettra d'emblée la communication des résultats du séquençage aux patients ainsi que l'évaluation et l'intégration rapide des nouvelles technologies dans son offre de services. Ultimement, le projet conduira à la découverte de nouveaux gènes associés à des maladies rares, tout en renforçant la portée du séquençage génomique pour le diagnostic des maladies rares au Québec. Cela s'inscrit dans le cadre du Plan d'action québécois sur les maladies rares 2023-2027 et aura également des retombées positives au Canada et dans le monde. C'était le séquençage génomique, un allié puissant contre les maladies rares, un texte paru le 5 mars 2025 dans UDEM Nouvelle.
De nouvelles actions pour les personnes handicapées à Baie-Comeau. Un texte de Carianne Neptune-Philippe paru le 3 mars 2025 dans le Manic. Que ce soit pour de meilleurs accès aux bâtiments et aux activités ou encore un meilleur service de transport adapté, la ville de Baie-Comeau fait savoir ses priorités à l'égard des personnes handicapées. Elle a adopté son plan d'action 2024-2026. Plusieurs actions sont déjà réalisées et se continuent. D'autres sont prévues pour les prochaines années. De manière générale, la priorité de la ville, c'est la consolidation du plan. C'est de s'assurer du suivi des actions en place, indique Amy Foster, agente de développement au service de la culture et des loisirs. Service adapté. Des insatisfactions ont été notées, souligne Mme Foster, par des organisations concernant le transport urbain et adapté. On nous a mentionné qu'il y avait des arrêts oubliés. Il y a aussi l'arrêt, qui est rendu au IGA, qui pose parfois problème, mentionne-t-elle. Cet arrêt, qui était à l'origine au centre d'achat La Flèche, a été déplacé après l'apparition du McDonald's dans le stationnement. Dans le centre d'achat, on a plusieurs organismes pour les personnes handicapées. Maintenant, les personnes doivent traverser pour revenir prendre leur autobus, poursuit-elle. Cette situation doit être analysée, tout comme la possibilité d'avoir un transport lors des jours fériés. Madame Foster note que la ville a réglé l'enjeu de dégagement pour les stationnements réservés aux personnes handicapées au centre sportif Alcoa. Accès à la plage. Nous voulons trouver une solution pour offrir un meilleur accès à la plage Champlain pour l'activité « La plage pour tous », enchaîne Amy Foster. La plage Champlain est difficilement accessible pour une personne à mobilité réduite et la ville de Baie-Comeau souhaite, en premier lieu, régler le problème pour cette activité précise. Avec une solution viable, l'activité pourrait même se donner à plusieurs reprises durant l'été. Carte d'accompagnement. Amy Foster souhaite faire davantage connaître la carte Accompagnement loisirs, CAL. En 2025, il est prévu d'informer les employés à l'accueil des différents bâtiments municipaux que la ville est partenaire de la CAL. Avec cette carte, une personne handicapée n'a pas à payer pour l'entrée de son accompagnateur dans les lieux touristiques, culturels ou de loisirs. Un autocollant de la CAL sera aussi affiché à l'entrée de ces bâtiments. L'instance municipale fera aussi de la sensibilisation auprès des autres organismes pour qu'ils deviennent partenaires. Respect des normes. Il y a plusieurs ajustements à faire au niveau des normes dans certains endroits, ajoute l'agente de développement. Plusieurs bâtiments ne respectent pas les normes quant à l'accueil des personnes handicapées. On retrouve, entre autres, dans le plan d'action 2024-2026, la rampe d'accès extérieure au centre sportif Alcoa, les toilettes adaptées au parc Manicouagan, ainsi que le trottoir au coin des rues Épilobe et Bossé. Site web. Le site Internet de la ville a été modifié pour la section pour les personnes handicapées. Amy Foster fait savoir que tout s'y trouve, autant pour les numéros de téléphone importants que l'entièreté du plan d'action 2024-2026 à l'égard des personnes handicapées. C'était « De nouvelles actions pour les personnes handicapées à Baie-Comeau », un texte de Carianne Nepton-Philippe paru le 3 mars 2025 dans le Manic.
Des parents réclament une interdiction totale. Un texte de Marie-Ève Maurras, paru le 5 mars 2025 dans La Presse. Un comité de parents enjoint aux écoles d'examiner la possibilité d'interdire complètement les téléphones qu'ils qualifient de « distraction chronique ». Une demande qui survient avant même que le ministre de l'Éducation ne tranche la question. Ce qu'il faut savoir. Le comité de parents du Centre de services scolaires des Chênes, CSSDC, demande aux écoles d'étudier une interdiction complète des téléphones. Sa présidente déplore que des téléphones soient encore présents dans les classes malgré leur interdiction, ce qui nuit aux efforts des parents voulant restreindre le temps d'écran de leurs enfants. une commission spéciale chargée par Québec d'étudier les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur les jeunes, doit déposer ses recommandations en mai. Depuis le début de l'année 2024, les téléphones cellulaires sont interdits dans les classes, mais pas dans les écoles, en vertu d'une directive du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Le comité de parents du Centre de services scolaires des chaînes, CSSDC, dans la région de Drummondville, constate néanmoins que beaucoup de cas d'utilisation du cellulaire en classe sont rapportés. Dans une lettre envoyée à tous les conseils d'établissement, le comité demande aux écoles primaires et secondaires de modifier leur code de vie pour interdire les cellulaires. Citation, ellipse, les notifications incessantes et l'accès facile aux réseaux sociaux détournent l'attention des élèves qui passent souvent plus de temps à consulter leur téléphone qu'à écouter l'enseignant. Fin de citation, peut-on y lire. Vers une meilleure gestion des écrans. Selon la présidente du comité de parents du CSSDC, Marie-Pierre Bessette, les parents s'inquiètent parce qu'ils veulent contrôler le nombre d'heures que leurs enfants passent devant un écran, mais le temps passé à l'école est un immense trou dans la journée où les parents ne gèrent rien. Les enfants, signale-t-elle, ne sont pas toujours une bonne source d'information sur ce qui se passe à l'école. Le comité de parents du CSSDC recommande donc d'interdire le téléphone chez les tout-petits également. Citation « Quand tout ce qu'on se fait rapporter, c'est qu'il y a du temps d'écran, ça biaise le jugement des parents. Comment on fait pour démêler le vrai du faux et avoir le vrai portrait ?» Fin de citation, Marie-Pierre Bessette, présidente du comité de parents du CSSDC. Citation « On met beaucoup l'accent sur le secondaire, mais de plus en plus d'élèves du primaire ont accès à des montres connectées ou des vieux cellulaires. » Fin de citation, poursuit la présidente du comité de parents, elle-même mère de 6 enfants. Il ne s'agit pas de déresponsabiliser les parents et de mettre sur le dos des écoles la gestion des écrans, ajoute Mme Bessette. En attendant le rapport, la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes doit déposer son rapport d'ici la fin du mois de mai. Ses membres ont fait la tournée de plusieurs écoles du Québec et ils ont reçu plusieurs dizaines de mémoires. Pour sa part, la Fédération des comités de parents du Québec a recommandé de privilégier l'éducation et la sensibilisation aux écrans, aux réseaux sociaux et leur utilisation saine et éthique, plutôt que l'interdiction. Le ministre de l'Éducation a indiqué qu'il ne ferme pas la porte à une interdiction complète du téléphone cellulaire dans les écoles, comme cela se fait déjà à certains endroits dans la province. Il attend les recommandations de la commission mandatée par Québec. Il appartient au conseil d'établissement de déterminer si les téléphones cellulaires sont interdits dans les écoles. Marie-Pierre Bessette croit qu'il est réaliste et simple d'implanter ce changement dès la prochaine rentrée scolaire et rappelle que le centre de service a déjà fait preuve d'innovation dans un autre dossier. L'automne dernier, le centre de service scolaire des chaînes a été le premier au Québec à inscrire tous ses élèves du secondaire dans un programme particulier de leur école secondaire de quartier. De toute manière, signale Marie-Pierre Bessette, le ministre Drainville pourrait interdire le cellulaire dans les écoles dès la prochaine rentrée. Citation « Pourquoi attendre qu'on nous l'impose quand on peut réfléchir collectivement et bien faire les choses ?» Fin de citation, demande-t-elle. Fini les téléphones dans les écoles danoises. Le Danemark a récemment annoncé qu'il allait légiférer pour interdire les téléphones intelligents à l'école, suivant les recommandations d'une commission sur le bien-être des jeunes. Les modalités de cette nouvelle législation n'ont pas encore été arrêtées, mais... Citation. Les téléphones portables et les tablettes personnelles n'ont pas leur place à l'école, ni pendant les pauses, ni les cours. Fin de citation, a expliqué le ministre de l'Éducation, Mathias Tesfaye, au quotidien Politiken. La Commission sur le bien-être recommande également de repousser l'utilisation des téléphones intelligents jusqu'à 13 ans. Citation. À mon avis, l'écran est en train de voler l'enfance de beaucoup de nos enfants. Fin de citation, a affirmé le ministre de la Culture, Jacob Engelschmidt. c'était « Des parents réclament une interdiction totale », un texte de Marie-Ève Maurras, paru le 5 mars 2025 dans La Presse.
Santé mentale des nouveaux arrivants, la difficulté culturelle complique l'intervention, un texte de Jean-Christophe Noël, paru le 5 mars 2025 dans le journal de Chambly. Une technicienne en éducation spécialisée, TES, du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, CSSDHR, remplit de 2 à 4 formulaires par semaine relativement à des incidents de violence qu'elle vit. Qu'elle se fasse mordre ou frapper, Marie complète plusieurs constats d'incidents de violence par semaine. « Je gère des crises autistiques, donc des fois, ce n'est pas de leur faute. D'autres fois, ils me regardent et viennent me frapper directement », relate Marie, TES, au CSSDHR. Elle travaille dans une classe d'élèves autistes ayant soit une déficience intellectuelle ou présentant un grand retard de développement cognitif. Les jeunes ont entre 7 et 10 ans. J'aimerais que les gens qui prennent des décisions dans les bureaux du CSS viennent voir ce que l'on vit dans nos classes, affirme Marie. Elle blâme le manque de ressources pour répondre aux besoins du terrain. Les besoins sont grands et criants dans les écoles, résume Marie. On s'enferme dans la toilette pour pleurer 5 minutes et on revient. Citation de Marie. Soutien de la direction. Elle insiste sur l'importance d'être soutenue par la direction de l'établissement. À l'école où elle travaille présentement, Marie mentionne que la directrice est réactive. Elle nuance que ça n'a pas été le cas dans le passé dans une autre école. « J'étais prise pendant 1 heure de temps avec un élève qui me lançait par la tête tout ce qu'il avait à portée de main. Quand j'appelais la direction pour que l'on m'aide, l'aide ne venait pas, raconte-t-elle. » Un local pour décompresser. La TES soutient qu'un espace pour décompresser pourrait être bénéfique pour elle, mais que les locaux manquent dans les écoles. « On s'enferme dans la toilette pour pleurer 5 minutes et on revient », décrit Marie. Elle dit être en thérapie en lien avec ce qu'elle a vécu. C'était « Santé mentale des nouveaux arrivants, la difficulté culturelle complique l'intervention », un texte de Jean-Christophe Noël, paru le 5 mars 2025 dans le journal de Chambly.